Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir Cyrus North, que vous connaissez peut-être comme moi de ses vidéos de philosophie, qui sont devenues au fil du temps des vidéos de réflexion sur beaucoup de sujets, notre rapport au temps, au bonheur, aux relations, qui nous invitent à penser par nous-mêmes et je crois que c'est ce que j'apprécie le plus dans son contenu. Dans cet épisode, on aborde plein de sujets différents mais passionnants, le stoïcisme, qui repose sur la philosophie de l'acceptation du destin. On parle de ses expériences de méditation intense et de ce qu'il en a retiré, de travailler tout seul dans son salon versus entouré d'une super grande équipe comme l'ego le souhaiterait parfois, et réussir à faire la différence entre ce qui nous épanouit vraiment et ce que la société nous vend comme épanouissement. C'était la première fois que vous écoutez In Power, et si c'est le cas, bienvenue. Je reçois chaque semaine des invités inspirés et inspirants qui ont pris le point de leur vie, et si ce n'est pas la première fois que vous écoutez ce podcast, c'est peut-être que vous appréciez l'écouter. Alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et si vous êtes vraiment extra, vous pouvez laisser quelques lignes sur Apple Podcast, me partageant pourquoi vous appréciez écouter In Power. Je lis les commentaires chaque semaine et ça me fait vraiment chaud au cœur. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Cyrus North. Ça tourne, de toute façon, on va commencer dans le direct, hein, parce que...
Okay.
It's 19h, nous avions rendez-vous à 17h30,
aïe,
comme
aïe,
ça
aïe.
C'est dit.
Aïe, aïe, aïe.
Désolé, je balance dès le début.
Je suis désolé, quoi. Je suis vraiment désolé.
Il n'y a pas de souci. Attends, alors moi, juste, on dit Cyrus ou Cyrus?
Comme tu veux, ça dépend où tu te trouves dans le monde.
D'accord.
Ouais.
Parce que moi, j'ai envie de dire Cyrus.
Tu peux.
Parce que je suis pas Harry Potter, tu vois. Genre, Cyrus, ça
Ok. Tu peux dire Cyrus, Cyrus, Cyrus.
C'était horrible.
Ma mère dit Cyrus, tu vois. Genre,
c'est vrai. Bon, c'est quand même elle qui t'a nommé. Donc,
exact.
On va peut-être se Cyrus. Ah, je crois qu'il n'y arriverait pas.
C'est un peu plus compliqué. C'est d'origine iranienne, en fait. Donc,
d'accord, c'est pour ça. Bon, on en sait déjà pas mal sur ta vie. Avant de te présenter toi-même, je veux juste te dire les trois raisons pour lesquelles je te connais.
Ouais.
La première, c'est parce que quand je préparais mon bac philo, je suis tombée sur tes vidéos. Parce que moi, j'ai passé mon bac en 2015, si je dis pas de bêtises. Et donc, tu faisais à l'époque des vidéos où tu démocratisais la philo, ce que je trouvais génial.
Depuis assez peu de temps d'ailleurs, depuis 2 ans, je crois.
Tu faisais ça depuis 2 ans?
Ouais.
Ok, bah écoute, franchement, ça m'a bien aidé. Et il y a peut-être des gens qui nous écoutent où c'était pareil, peut-être qu'ils te connaissent pour ça. La deuxième raison, c'est parce que tu étais le coloc d'un ami de promo, Hugo Travers.
Alors, est-ce que j'étais sur... On n'a pas été coloc.
Vous n'avez pas été coloc?
Non, on a longtemps.
Fake news.
Ouais, on a longtemps parlé du fait de se mettre en coloc.
Ah d'accord. Ah bah j'ai mal compris l'info.
Il t'a dit qu'on était en coloc?
Eh ben moi c'est ce que j'avais retenu.
Ah ouais, non, on n'a pas
été
en coloc.
C'était tout près de chez moi à l'époque, dans le 15e. Mais alors vous n'avez pas été en coloc?
Non, ouais.
Ceci est une fake news.
C'est une fake news.
Bon.
Effectivement.
Anyway.
Mais on est très potes.
Ok, voilà.
On est très potes.
Et du coup la troisième, c'est que quelqu'un m'a dit, j'arrive plus à me souvenir qui, mais que tu avais fait Vipassana.
Ouais, exact.
Et ça m'intéresse grave, donc on pourra en parler dans le podcast.
Ça marche.
Je crois que c'est peut-être Fabien Olicard, mais I'm not sure.
Ok, c'est possible.
Voilà.
C'est possible.
Donc maintenant que tout ça est dit, c'était une longue intro.
Mais quel âge du coup si t'as,
et t'as ben, j'ai le même âge qu'Hugo. J'ai le même âge qu'Hugo.
Ok, donc.
97.
Ok.
Ouais, 24 ans.
24
voilà.
Ok.
Et maintenant, Cyrus, c'est à toi de te présenter de la façon dont tu le souhaites.
Ok, très bien. Et ben, je m'appelle Cyrus. J'ai 31 ans. Je fais des vidéos sur Internet depuis maintenant 8 ans.
Ouais.
Vidéo et même contenu d'ailleurs, parce que tu vois, le podcast, ce genre de choses. Et j'ai commencé par la philosophie pure, tu vois, c'est-à-dire expliquer des concepts de philo avec des vannes, etc. Et en fait, maintenant, je parle à peu près de tout ce qui m'intéresse. Tu vois, j'essaie de à chaque fois d'avoir une sorte de plus-value ou un angle intéressant, un pas de côté, mais je parle vraiment de tout ce qui peut m'intéresser, quoi, sur ma chaîne YouTube.
Et pourquoi t'as voulu commencer en parlant de philo? Moi, je me suis dit quand même c'est cool parce qu'à l'époque il y avait beaucoup de divertissement sur YouTube.
Ouais.
Et bon, même aujourd'hui le divertissement marche mieux, tu vois. Et tu prouves qu'on peut bien marcher et parler à pas mal de monde en traitant des sujets de fond. Donc voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais créer une chaîne YouTube en parlant de philo?
En fait, tu vois, genre j'ai toujours eu un attrait pour la philo. J'ai découvert ça tard, c'est-à-dire qu'en fait, je l'ai découvert vraiment à l'école.
Ouais.
Tu vois, genre j'arrive en terminale, on me présente la philo.
De toute façon, il n'y a pas de philo avant. Hein.
Ouais, mais tu vois, genre tu peux avoir des parents qui t'en parlent ou ce genre de truc. Nous, c'était pas du tout ça. Et je me dis, ok, déjà, pourquoi on n'en parle que maintenant? Tu vois, genre pourquoi on n'en a pas parlé avant? C'est super intéressant. Et deux, en fait, je me rends compte que mes moments préférés dans les soirées, ça va être à 2h du mat, quand on n'est plus que 3-4, et on refait le monde, en fait. Et tu vois, tout le monde est parti, voilà. Et en fait, je me suis dit, ok, donc la philo m'intéresse, j'ai envie d'en parler. Et je rentre en prépa. Donc prépa, voilà, philo à balle, c'est chambé. Pardon, je rentre en école plutôt. Et là, genre vraiment plus de philo. J'ai un peu la sensation que mon cerveau fond, entre guillemets. Parce que,
c'est la métaphore.
Ouais, c'est ce que beaucoup de gens qui ont fait prépa et qui rentrent en école disent. Parce que t'es beaucoup moins stimulé intellectuellement qu'en prépa, tu vois.
Ouais.
En même temps, c'est difficile d'être plus stimulé intellectuellement que la prépa, je trouve. Et je me dis, ok, bah, je vais m'y remettre de mon côté. Et en fait, en m'y remettant, déjà, j'ai vu quelques trucs aux États-Unis qui se faisaient. Genre, il y avait un gars qui s'appelait Philosophy Bro ou Bro Philosophy qui parlait de philo sur un blog, mais en mode yo man, yo dude, what's up? Tu vois, donc je me suis dit, ok, c'est marrant, le ton. J'étais tombé sur un bouquin qui s'appelait Philosophy Big Ideas Simply Explained. Chez Urban Outfitters à l'époque, tu vois, donc c'était des bouquins un peu avec des visuels colorés et tout. Je me suis dit, ok, c'est ouf, ce bouquin a l'air hyper sexy, en fait, tu vois, genre ça me donne envie de l'acheter, alors que ça parle de philo, quoi.
Ouais.
Et donc tout ça, je pense que, tu vois, c'est rétrospectivement que je vois tout ça et que je les lis, en fait, à mon parcours. Mais en fait, ça donne du grain à moudre. Et au bout d'un moment, je dis à un mec, je me souviens, je lui dis, putain, ça serait marrant, hein, c'est pas sorcier de la philo, tu vois. Et je découvre Norman, Cyprien, Mister V, Antoine Daniel. Je crois que c'est à peu près les seuls youtubeurs que je découvrais à l'époque. Et je me suis dit, non, ça serait marrant un Norman qui, au lieu de parler du ping-pong, par exemple, il parle de Platon. Tu vois, genre, ça me ferait délirer, tu vois. Et donc, bah, vu que j'avais déjà fait un peu de, tu vois, genre de théâtre ou... Enfin, j'avais déjà été devant la caméra, j'avais déjà été derrière la caméra, tu vois, j'avais déjà monté des trucs, j'avais... Bref. YouTube se retrouvait en fait au carrefour de plein de choses que je kiffais faire ou que je maîtrisais, tu vois. Et donc, bah, j'ai commencé comme ça ma chaîne YouTube, quoi.
Ouais, et tout de suite, les gens ont
pas
kiffé.
Pas du tout.
Non, mais ouais. Tant mieux. Si,
en fait...
C'est sympa aussi les histoires voilà, de galères,
ouais,
de drames.
Exact. Non, mais
ça peut aussi marcher dès le début.
Non, mais en fait, à l'époque, tu vois, genre on était en 2013, il n'y a pas de marché dès le début.
Non, mais c'est clair.
Parce que, bah, il n'y a personne, tu vois.
Il n'y a pas de concurrence.
Ouais, il y a très peu de concurrence. En fait, c'était à une époque, je me souviens, où les gens, ils te remerciaient de leur filer d'autres chaînes à suivre. Parce que c'était en mode, ok, je sais pas quoi regarder sur YouTube, parce qu'en fait,
vous êtes deux.
Ouais, voilà, je suis quelques créateurs, et en fait, une fois que les créateurs, ils ont sorti leurs vidéos, en plus, ils en sortaient beaucoup moins que maintenant, je sais pas quoi regarder, quoi.
Ouais.
Et donc, non, ça s'est fait, en fait, si tu regardes ma courbe de croissance, c'est extrêmement linéaire.
Ok.
Tu vois, j'ai pas eu une explosion, en fait, tu vois. Et ça se sent dans mes chiffres, tu vois, genre, ça fait 8 ans plus tard, je suis à 660 000 abonnés, un truc comme ça. Donc c'est que c'est linéaire.
Ouais, moi aussi c'est pareil. Ouais. Y a pas eu de buzz ou de truc. Tant mieux parce que ça veut dire que les gens apprécient ton contenu, continuent à te suivre et que d'autres découvrent.
Voilà, et je pense que des fois j'ai des bouts de ma communauté qui partent et puis qui reviennent, etc. Tu vois, il y a des gens qui me disent ah c'est marrant, je te suivais pour la philo, j'ai arrêté de te suivre, mais là ça de nouveau ça m'intéresse. Tu vois, donc je pense que d'une certaine manière je fais un peu partie du paysage,
tu vois,
en tout cas d'un certain paysage. Et ça me va très bien, tu vois.
Ouais, bah moi direct j'ai envie de te demander, après 8 ans de YouTube, tu t'es pas lassé? Tu t'es, parce que du coup attends, si je j'ai pas envie de calculer là, je t'avoue, 19h, j'ai pas envie de calculer. tu faisais des études à ce moment-là en parallèle, ou c'est après avoir fini tes études que t'as lancé ta chaîne?
Non,
YouTube,
j'ai commencé, j'étais en césure.
T'étais en césure?
Ouais, j'étais en césure, donc en stage longue période.
Ouais.
J'étais chez Ubisoft.
D'accord. Et du coup, tu t'es dit, à la fin de tes études, je me consacre à YouTube?
En fait, ouais, je me suis dit, ok, je vais me donner 6 mois, voire 1 an, voir ce que ça donne, et je teste, voilà, pendant cette période, et si ça marche pas, bah, je me remets sur le circuit classique, que j'aimais bien aussi, tu vois, genre, j'étais dans le web marketing et tout, chez Ubisoft, je gérais les campagnes Facebook, les campagnes YouTube, etc., et je kiffais aussi grave ce que je faisais, tu vois, mais c'est vrai que là... je me disais, ouais, si je peux vivre de ce truc-là, c'est insensé.
Ouais.
Genre, ça me semblait... ça n'avait aucun sens.
Ouais.
Tu vois, et quand je l'ai lancé, ma chaîne YouTube, je l'ai pas lancé en me disant, je vais vivre de ça, tu vois. J'ai lancé parce que je me suis dit, ok, ça me ferait kiffer. Enfin, déjà, l'exercice me fait kiffer. Ensuite, ça me fait kiffer de parler de philo sur cette plateforme. Ça me fait kiffer si je peux redonner envie aux gens de s'intéresser au truc.
Mm-hmm.
Voilà, quoi.
Et donc du coup après c'est 1 an tu as pu en vivre.
J'en ai pas vécu, mais j'ai eu ce qu'on va appeler des green lights, c'est-à-dire en gros
des feux verts en français. Parfois on s'est obligé de l'américaniser.
Mais c'est vrai.
Mais je le fais aussi, donc je ne reproche.
Je sais pas pourquoi je préfère le terme green light à feu vert.
Alors c'est marrant parce que moi autant les gens qui nous écoutent savent que je fais plein d'anglicismes, mais autant le feu vert, pour moi, en français, il est hyper explicite.
Mais alors, je crois que c'est pas... Dans ce cas, c'est pas des feux verts.
D'accord.
Parce qu'un feu vert, c'est genre vraiment...
Tu peux y aller.
Ouais, go. Alors que moi, c'était plus des petits...
Des signaux.
Ouais, des petits signaux. Voilà. Signaux. Tu vois, des petits signaux. Tu vois, donc c'est...
Des petits signaux au vert.
Voilà, donc c'est un peu différent. tu vois, genre par exemple, j'ai rejoint le network à l'époque. Tu sais, il y avait des MCN, ouais. les networks et tout. J'avais rejoint le... Ok, Siri.
On veut du vrai.
j'ai rejoint le network de Canal+.
D'accord.
Donc tu vois, genre, je me suis dit, ok, gros signe vert, tu vois, enfin gros signal vert, parce que si eux s'intéressent à moi, c'est que il y a une potentialité, c'est que eux ils voient un truc que moi je vois peut-être pas, et voilà, un ou deux projets qui se font à droite à gauche comme ça, et je me dis, ok, en fait t'es peut-être au bon endroit, au bon moment, en train de faire le bon truc, tu vois, et en fait au bout d'un moment j'ai pu dégager assez de sous pour me payer un petit loyer à Paris, tu vois, genre j'avais une petite chambre de 13 mètres carrés qui me coûtait 600 balles, tu vois.
Ouais.
Et ensuite, voilà quoi, ça a commencé. Et là, j'ai commencé à recruter des gens,
ouais,
tu vois, pour m'aider. Donc j'ai commencé à grossir et tout. Et en fait, c'est marrant ça, j'ai fait marche arrière en fait, après coup. Tu vois, genre j'ai préféré de nouveau taffer seul.
Ouais.
Donc j'ai retaffé seul. Et là, maintenant, je suis à un stade où j'ai repris des gens, mais pas de la même manière. C'est-à-dire qu'avant... je les prenais genre de manière plus pérenne, c'est-à-dire en gros je voulais qu'ils travaillent full time pour moi.
Ouais.
Maintenant c'est vraiment genre à la mission quoi.
Freelance.
Ouais, voilà.
Ouais, non mais c'est une question ça, hyper intéressante, enfin en tout cas personnellement, parce que il y a ce truc du fantasme un peu de l'entrepreneur qui monte sa boîte, qui monte sa structure, et je trouve que il faut vachement se connaître pour savoir si c'est ce qu'on veut ou pas.
Ouais.
Et c'est une grosse question que je me pose aussi en ce moment, parce que tout le monde me dit, mais entoure-toi plus, parce que je suis débordée, machin, essayer, j'ai plein d'activités. Mais c'est vrai que, enfin bon, j'ai la chance d'avoir une super bras droit, parce que bon, typiquement, j'ai une marque de sous-vêtements, donc tu ne peux pas la faire toute seule.
Ouais.
Donc là, j'ai dû m'entourer. Mais c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui manage, ça aide vachement. Et là, j'hésite à prendre quelqu'un d'autre pour m'aider aussi sur toutes mes activités, plus de création de contenu. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, au fond de moi, que j'aime vraiment mon indépendance, tu vois, et ma liberté. Et de me ouf. Dire, putain, c'est une charge mentale quand même.
Ah bah de
d'avoir
ouf.
Des gens à ta charge qui attendent que tu leur donnes des consignes.
C'est-à-dire que tu te lèves le matin, il y a des gens qui attendent quelque chose de toi, tu vois.
Ouais, c'est ça.
Alors que j'avoue qu'une des énormes libertés de notre métier, c'est que je peux très bien, à un moment, un matin, me dire, ce matin, vous savez quoi ? Jusqu'à midi, je ne serai pas là, genre, tu vois, et personne va me saouler, tu vois.
Ouais.
Donc, mais j'étais aussi effectivement dans cette envie d'entrepreneuriat, monter sa boîte. Je pense que mon père a eu une grosse influence là-dessus sur moi, parce que lui, il a monté plusieurs boîtes, et donc je l'ai vu faire, et du coup, je me suis dit, ouais, moi aussi j'ai envie de ça, moi aussi j'ai envie d'avoir des gens, être entouré, des employés, tout ça. Et tu vois, genre, on parlait d'Hugo tout à l'heure, Hugo, il s'est vachement...
mis là-dedans.
Il est là-dedans à fond. Et moi je me suis vite rendu compte qu'en fait je crois que c'était pas pour moi, tu vois, ou en tout cas soit c'était trop tôt, ou en tout cas c'était pas la bonne méthode. Je pense que ça m'irait si j'avais un bon ou une bonne bras droit, tu vois, qui fait ce taf là et qui moi me laisse mon indépendance.
On en a parlé sur l'épisode avec avec PA, avec Domingo, où lui a justement trouvé ça, un super bras droit
avec Clément.
Alors il m'a pas dit son nom, mais c'est peut-être Clément.
Ouais.
Et parce que lui il peut vraiment se concentrer sur la création, mais il développe grave une structure. Donc en effet, je pense qu'il y a pas de schéma unique, mais je pense que c'est important de pas glorifier. Et c'est marrant parce que là, je termine l'écriture de mon livre et j'en parle un peu. Bon, ça porte vachement sur les injonctions sur les femmes, mais tu vois, il y a de plus en plus cette valorisation de la girl boss, à laquelle parfois je participais même malgré moi. Et qui en fait tend à dévaloriser toutes les autres formes de travail et de travaux que fournissent les femmes, comme le travail domestique, comme même ne serait-ce que la famille, que serait-ce le travail émotionnel, et où maintenant, tu vois, une femme au foyer, elle va limite être dévalorisée parce qu'on a cet idéal de superwoman qui n'existe pas ou qui est en dépression parce que tu ne peux pas être sur tous les fronts. Dans une certaine mesure, c'est un peu ce qu'il y a aussi dans nos sphères ou dans l'entrepreneuriat. C'est qu'en gros, c'est soit t'as une énorme boîte et on te regarde avec des grands yeux en mode « Ouah, putain, il se développe, il a 50 employés ou je sais pas quoi. » VS le mec tout seul, qui est peut-être tout aussi heureux, voire plus heureux, mais qui socialement va être moins valorisé. Et je pense que ça joue dans notre réflexion inconsciemment, tu vois.
Ah ouais, c'est sûr que moi, à ce stade, en tout cas, à l'époque, ça avait joué grave dans ma réflexion de me dire, voilà, je pense qu'inconsciemment, il y avait ce truc que je renvoyais, tu vois. de parce que surtout encore plus quand t'as ce métier de youtubeur où on est quand même vachement pendant longtemps, ça l'est plus trop maintenant, mais pendant longtemps on a eu cette étiquette du gars qui fait des vidéos dans sa chambre,
ouais, voilà.
Et donc fallait sortir un peu de ça, et en fait aujourd'hui bah moi je fais carrément ça, genre je fais des vidéos dans mon salon, tu vois,
mm-hmm.
Et je suis très content avec ça, tu vois, j'en suis même en fait il y a même une fierté un peu, tu vois, de
ouais.
Regarde ce que j'arrive à faire en
dans
faisant
mon
des
salon.
Vidéos dans mon salon, quoi.
Ouais, ouais,
tu vois.
Donc t'as réussi à te détacher de ces injonctions,
ouais,
de ce que la société pouvait te renvoyer en mode.
Des fois ça revient, tu vois. Des fois ouais. Je suis là genre, pff, ah, je pourrais faire ça, je pourrais entrer dans ce truc-là, etc. Ça me titille et tout, mais ouais, le fait de l'avoir essayé, c'est pour ça que je te disais genre c'est cool d'essayer. Le fait de l'avoir essayé,
oui.
Je me rappelle ce qui m'allait pas,
ouais.
Et du coup j'y vais pas, quoi.
Ouais, très bon conseil. Quel conseil t'aurais à donner pour les personnes qui peut-être comme toi, j'en fais partie, aiment énormément la philo? Mais c'est très difficilement accessible, je trouve. Bon, à part regarder par exemple tes vidéos, et il y a d'autres chaînes qui le font, mais tu vois, moi, j'ai donc fini mes études il y a 2 mois, j'ai eu une espèce de non-acceptation, bah, donc de déni, de waouh, j'ai pas envie en fait d'avoir fini mes études, surtout que mes 2 dernières années, je faisais tout ça en parallèle, donc c'était un peu la one again. Et où en plus, bon, du coup, à Sciences Po, on faisait pas mal de philo au collège universitaire, mais plus du tout en master. Et où, tu vois, je me suis même déterre cet été. J'ai regardé dans quelle fac je pouvais peut-être m'inscrire en auditeur libre pour aller dans les trucs du philo. Après, j'ai vu que Nanterre, c'était à 1 heure de chez moi. Je me suis dit, Louise, arrête de te mentir, tu n'iras jamais. Après, j'ai vu qu'il y avait les mardis de philo d'Olivia Gazalet, qui est en plus une autrice que j'adore. Donc, je me dis, why not? Mais bref, tu vois, je trouve ça super difficile de nourrir cette soif peut-être qu'on a de philosophie. Parce que t'en fais 1 an en terminale, si t'as pas un bon prof en plus, ça peut peut-être te dégoûter du truc. Et que bon, voilà, lire des ouvrages de philo, Platon pur, moi, c'est pas mon dél, tu vois.
Ouais, ouais, je vois. En vrai, il y a pas mal de petits trucs, tu vois, genre, bah, donc tu parlais d'Olivia Gazalet, mais tu vois, genre, t'as aussi, je sais pas, t'as Charles Pépin, par exemple.
Bah, je l'ai reçu sur mon podcast.
MK2,
écoutez l'épisode, jamais vous l'avez pas encore écouté.
Donc tu vois, t'as pas mal de gens comme ça qui font,
ouais.
Ou philosophie sexy.
Oui, c'est vrai, il faudrait que je la reçoive aussi, elle.
Ouais, qui est très très cool. Tu vois, donc qui fait des podcasts de philo. Donc voilà, donc t'as du contenu comme ça, t'as des trucs aussi à la radio, tu vois, genre les chemins de la philosophie, tu vois.
C'est vrai, il y a des émissions de radio.
Etc. Donc t'as des émissions de radio, t'as des trucs à masse. Mais moi, je trouve que... Enfin, moi, comment j'ai fait, c'est par des bouquins de vulgarisation... tu vois, qui reprennent un peu toute l'histoire de la philo. Tu vois, genre, le titre va faire sourire, mais tu vois, genre, la philo pour les nuls.
Ouais, ouais, je me suis fait cette édition.
Hyper efficace, quoi.
Ouais.
Hyper efficace. Et en fait, le fait de redécouvrir un petit peu... T'as plein d'éditions comme ça de bouquins. Genre, il y a par exemple L'art d'être heureux avec Schopenhauer... Pardon. L'art d'être heureux avec Spinoza... de Balthazar Thomas, L'art d'être je ne sais plus quoi avec Nietzsche.
Je ne sais quoi.
Je ne sais plus qui.
C'est ma marque. Voilà. Faut que j'arrête de te couper, continue.
Mais en gros, tu vois, t'as des bouquins secondaires comme ça, donc de gars qui parlent de philo, que je trouve beaucoup plus accessible. Et sinon, en vrai, la philo antique, tu vois, genre par exemple Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, donc je t'ai cité que des stoïciens, mais c'est parce que c'est ma philosophie préférée. Mais tu vois, qui sont beaucoup plus accessibles et hyper faciles à lire, et en plus qui s'ancre un petit peu dans une logique de développement perso, même si ce terme, il est...
galvaudé.
Oui, il est galvaudé, mais c'est pas ce que j'allais dire. Il est aussi... il est clivant, tu vois, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a les anti et les pour, quoi. Il y a les gens qui sont là en mode, bah, c'est très bien de se développer soi-même, je vois pas le problème. Et il y a les autres qui disent, ouais, mais faut faire gaffe aux gourous, on nous rabâche des trucs qui sont irréalisables, etc., etc., tu vois. Donc... via les bouquins ou les émissions, t'as pas mal de trucs à grignoter, je trouve. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient, à force de consommer, ça devient des réflexes, quoi. C'est-à-dire que le moindre truc que tu vas voir, ou que ce soit un film, que ce soit une émission de télé ou un débat politique, tout de suite, tu vas raccrocher les wagons, en fait, dans ta tête, tu vois.
Ouais.
Et donc, ça va peut-être te donner envie de creuser le sujet.
Ouais.
Et donc, tu vas tomber sur des articles de gens qui poussent la question un peu plus loin, etc.
Voilà. J'ai une question qui va paraître peut-être étrange, mais qui est une question que je me pose de plus en plus. C'est est-ce que savoir plus, ça rend plus heureux? Parce que j'ai l'impression que non seulement les philosophes n'avaient pas l'air très heureux, mais que l'expression imbécile heureux ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire que j'ai l'impression que plus tu en sais parfois, plus ça te déprime, plus tu ne peux pas faire semblant de ne pas croire, et parfois plus l'ignorance, en fait, te protège.
Ouais, alors, tu vois, genre si on fait un plan de philo, pour le coup, en trois parties.
Vas-y.
Donc la première partie, ce serait de dire que, tu vois, la partie évidente de dire, bah ouais, mais si tu sais rien, t'es malheureux, parce que, donc en fait, savoir, c'est mieux de savoir parce que tu comprends mieux ce qui t'entoure, etc. La deuxième partie, c'est ce que tu viens de dire, tu vois, c'est de dire, ok, mais en fait, plus je sais, et il y a ce déni qui peut se faire, enfin qui peut pas se faire parce que justement du coup je sais, je suis au courant de ce qui se passe et donc je peux pas fermer les yeux dessus et il y a des choses horribles et tout. Et en fait je pense que la troisième partie, ce serait de dire ce qui compte c'est ce que tu sais. C'est pas juste le savoir, en fait on... effectivement si on parle juste du savoir c'est compliqué comme question, mais par contre il y a... dans le savoir il y a énormément de choses, tu vois, il y a... on peut... ça dépend sur quoi tu mets ton attention, tu vois. Tu peux par exemple apprendre à être heureux, tu vois, et ça c'est un savoir, ça ça s'acquiert, tu vois. Ça peut se travailler, tu vois, tu peux essayer de comprendre les mécaniques qui font que tu es malheureux et travailler dessus, tu vois. Donc, et à l'inverse, effectivement, si tu passes ton temps à te renseigner sur les news et tout ce qui va mal dans notre planète et dans notre pays, et que tu n'arrives pas à te détacher de ça et que ça t'impacte émotionnellement, oui, tu seras malheureux ou malheureuse, tu vois. Donc, je pense que ça dépend de quoi tu te nourris. En fait, c'est vraiment comme la bouffe, quoi. C'est genre, ça dépend ce que tu consommes, tu vois. Ça dépend ce que tu as mangé, tu vois. Et donc, c'est pareil avec le cerveau. Donc, je ne pense pas que plus on sait et plus on est malheureux. Par contre, la question, c'est est-ce que plus on pense et plus on est malheureux, tu vois.
Et alors là, quelle serait ta thèse en trois parties? Tu as le droit d'en faire deux, mais je suis plutôt partisane des trois aussi.
Là, en vrai, alors même sans rentrer dans une thèse en trois parties, je pense pour le coup que la surpensée, oui, ça nous détourne, tu vois, du bonheur pour plein de raisons. Et c'est marrant, bah, du coup, je raccroche les wagons avec ce que tu as dit au tout début du podcast, donc tu parlais de la méditation. Tu vois, en méditation, tu apprends notamment à... non pas ne pas penser, mais à penser le moment présent et à observer le moment présent, à te rattacher à ça. Et en fait, en faisant ça, tu arrêtes un petit peu ce film de pensée qui s'oriente vers le futur ou le passé. Tu vois, parce qu'on passe notre temps à soit revivre des événements qu'on a passés, tu vois, et donc que ce soit en bien ou en mal, ou alors à se projeter dans des événements qui n'ont pas encore lieu, soit avec anxiété, soit en ayant hâte. Bon, souvent, c'est de l'anxiété quand c'est le futur.
Généralement.
Et là, le but, c'est de dire, OK, en fait, ça, ce film-là, du passé et du futur, il est infini, tu vois. Genre, c'est pire que Netflix, en fait. Tu pourrais passer ta vie à juste imaginer des choses que tu vas vivre et que tu n'as pas encore vécues, etc. Et donc, bah, quel intérêt, tu vois, quel intérêt de passer son temps là-dedans, dans un truc qui n'a pas de fin, qui t'apporte de l'anxiété, qui n'existe pas. C'est bien de le faire dans une certaine mesure pour se préparer à certaines choses, tu vois. Pour, tu vois, genre par exemple, là, on a ce podcast, bah, tu vois, j'aurais pu préparer le truc de, ok, de quoi on va parler, comment je veux le dire, qu'est-ce que je veux dire, voilà. Bon.
Je l'ai pas fait non plus. T'inquiète.
Ouais, je l'ai pas fait. Mais, tu vois, il y a une préparation qui peut être opportune et,
Et pertinente. Voilà, examen, tout ça.
Mais tu vois, la surpensée. Je pense pas que ça puisse t'apporter du bon, tu vois. Et c'est marrant, c'est un truc que j'ai mis en story aujourd'hui même, parce qu'en gros, c'était un screen d'un film qui disait, et je crois que le gars disait dans le film, ouais, j'en peux plus de penser, je pense trop, tu vois. Et j'ai fait un sondage en me disant, ouais, est-ce que, j'ai dit, ouais, je ressens trop ce truc-là, est-ce que vous le ressentez aussi? Et genre, je crois que c'était 87% des gens dans ma story me disent, ouais, pareil, on ressent la même chose, etc. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Et moi, il y a une grosse période de ma vie, et je sais pas comment c'est parti, je pense que la méditation m'a aidé pas mal, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Mais il y a une grosse période de ma vie où juste ça me saoulait de penser autant, tu vois, genre de tout intellectualiser, de réfléchir à tout le temps, le moindre truc que je regardais, tu vois, genre j'ai l'impression d'être stop quoi, tu vois.
Ouais, ouais. Je connais totalement le sentiment où t'as l'impression que ton mental te maîtrise plus que tu ne maîtrises ton mental.
Et t'es subjugué par le truc et juste t'en peux plus quoi. Et même juste le moindre trajet, tu vas être là, genre, mais tiens, si je passe par là, en fait, je vais couper. Donc là, je vais analyser, mais est-ce que. Attends, mais si j'applique le théorème de Pythagore, mais pourquoi tu penses au théorème de Pythagore, Cyrus? Mais bah, je sais pas, en fait, regarde. Si et t'es là, genre, wow, wow, wow.
Ta gueule.
Stop. Stop, tu vois. Donc, penser trop, je pense qu'il y a pas mal de gens en vrai qui.
Bah,
qui
quand même, là, tu me lances une grande perche. Est-ce que tu pourrais essayer, avec le recul, d'analyser ce qui a pu t'aider peut-être à sortir de ce stade-là?
Je pense qu'il y a déjà ne plus lutter contre mes pensées, c'est-à-dire que accepter le truc. Genre, ouais, ok, je suis comme ça, en fait. C'est-à-dire que, ouais, ça pense beaucoup. Je m'en fous de savoir si tout le monde pense comme moi ou si je suis seul. Et genre, spoiler, non, t'es pas tout seul. Hein, tout le monde,
On est beaucoup.
On est beaucoup. Mais voilà, je pense comme ça et j'apprends à m'aimer, tu vois. J'apprends à aimer ça, tu vois, parce que ces pensées-là aussi, c'est ma force dans tel truc, dans telle discipline que je vais entreprendre, etc. Bah, si je pense à tout ça, c'est parce que j'ai eu ces pensées-là avant, etc., etc. Donc il y a le fait de s'accepter, mais il y a aussi, je pense que ce que je te disais, je pense que la méditation, ça m'a pas mal aidé à apprécier le moment présent et à me reconcentrer sur le moment présent et me dire ok, ces pensées là en fait elles ont lieu, mais au lieu de m'identifier à elles, je vais juste les observer, tu vois. Genre, ça pense, tu vois.
Ouais. Et ça, t'y es parvenu juste en méditant 10 minutes le matin
Déjà, il y a deux choses avec ce dont on parle là. Il y a la compréhension expérientielle et la compréhension intellectuelle des choses. Il y a, en gros, là, notre discussion, et ce que tu pourrais lire dans des bouquins, etc., c'est la compréhension intellectuelle des choses, tu vois. C'est une recette de pâtes, par exemple, c'est la compréhension intellectuelle. Et après, la compréhension expérientielle, c'est quand tu vas la faire, la recette de pâtes, pour la première fois, et que il y a des choses que tu vas comprendre corporellement, si tu veux. Et qui s'expliquent pas forcément, tu vois, et qui sont très durs à expliquer. Je pense qu'en fait, déjà, la compréhension intellectuelle, elle aide pas mal. C'est-à-dire que comprendre intellectuellement que, ok, en fait, les pensées sont là, elles pensent, et je suis pas obligé de m'identifier à elles, et je peux très bien juste les observer sans y réagir, en fait. C'est-à-dire que, ouais, c'est un bruit de fond, mais je suis pas obligé d'y porter mon attention, d'une certaine manière. Déjà, ça, le comprendre, ça aide pas mal, tu vois. Et après, en fait, voilà, toute la partie méditation, donc la pratique de la méditation, ça, c'est pour acquérir la compréhension expérientielle. C'est-à-dire, c'est pour que ton corps, et pour que tu comprennes avec ton corps de comment ça marche et de le ressentir et de le vivre.
Ouais.
Tu vois, ce truc-là. Je pense que, ouais, déjà, en fait, déjà la compréhension intellectuelle m'avait déjà bien aidé, tu vois.
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a du coup poussé à faire Vipassana? Je crois que j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, mais pour celles et ceux qui connaissent peut-être pas, c'est une retraite de 10 jours où on ne fait que méditer. Je ne sais plus quelle est la personne qui a initié ce...
C'est S.N. Gwenka.
Voilà.
Ouais.
C'est ça. Dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé?
Parle-nous de ça.
Parle-nous de ça, parce que, bon, c'est pas anodin.
Ouais.
Et surtout, voilà, qu'est-ce que t'en as retiré peut-être? Et ouais, les enseignements. Parce
alors,
que
je l'ai fait deux fois en plus.
Tu l'as fait deux fois?
Ouais.
Où ça?
Je l'ai fait au Népal.
Ok, les deux fois.
Ouais.
Ok.
Et c'est marrant parce que tu vois, genre, tu cites Vipassana, je l'ai jamais cité dans mes vidéos.
Ah ouais?
Ouais.
Exclusivité.
je le cite pas parce que. J'ai pas envie, tu vois, j'avais pas envie de. Que les gens, en fait, de mettre trop
l'étiquette.
J'allais dire un mot anglais, le spotlight, mais.
la lumière.
Ouais, voilà. Ouais. De mettre trop en lumière Vipassana en particulier, parce que, avec l'influence qu'on a, tu vois, j'avais peur que d'un coup, il y ait plusieurs Français, par exemple, qui se retrouvent dans des pays d'Asie du Sud-Est, dans des centres Vipassana. Et que ça, déjà, ça nique un peu leur expérience, tu vois, à se retrouver. Parce que moi, ce que j'ai kiffé aussi, c'est que, en fait, j'étais quasiment le seul occidental, tu vois.
Ouais.
Et en plus de ça, il y a plein d'autres types de méditation, plein d'autres types de centres, etc. Et faut trouver aussi celui qui est adapté à soi, tu vois. Et moi, je trouvais, mais de toute façon, il y a plein de youtubeurs et youtubeuses qui ont parlé ensuite de Vipassana sur YouTube et tout. J'avais l'impression que en fait, ça prémâchait le taf, Tu vois, ça prémâchait ce taf de... Déjà, l'initiation, elle commence déjà, en fait, dans la recherche de, OK, c'est quoi ces trucs? Ouais. Et est-ce que ça existe? Et c'est quoi les différents trucs qui existent, etc. Donc, voilà, pour les gens qui nous écoutent, sachez qu'il y a plein de types de méditations différentes. Et je vous invite vraiment à explorer tout ce qu'il y a à ce niveau-là. Genre, il y a dans tous les pays du monde, voilà, il y a plein de trucs. Mais donc, moi, j'ai effectivement, c'est une pote qui m'avait parlé de ça. Même pas tant une pote d'ailleurs, c'est plus une connaissance, tu vois. Et en fait, je sortais d'une rupture, genre une relation de 4 ans et demi, un truc comme ça. Et genre, j'avais besoin d'être seul, quoi. En fait, tu sais, genre, sur les longues relations, au bout d'un moment, tu sais plus, tu sais, genre, qui t'es vraiment, tu vois, qu'est-ce que t'aimes, c'est quoi, genre, si je suis seul, genre, qu'est-ce que je fais le dimanche matin, genre, tu vois. Donc, j'avais vraiment besoin de m'isoler et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, quitte à s'isoler, on va aller s'isoler, mais bien comme il faut. On va aller loin, on va se retrouver seul et on va pas parler. Et donc, j'ai trouvé ce truc. Et donc, c'est effectivement 10 jours de noble silence. C'est-à-dire que non seulement tu as le droit de parler, mais tu n'as pas aussi le droit de faire des eye contact.
Ouais.
Ou de, voilà, sauf avec les profs, parce que tu es là pour méditer. Il faut savoir qu'en gros, c'est des stages où en fait, c'est tellement difficile. Que sur les 100 qui peuvent arriver au début, à la fin, vous n'êtes plus que 60. Tu vois.
Ah ouais?
Ouais.
Les gens... Je ne savais pas que vous étiez autant.
On est même plus.
Ah bon?
Là, j'ai fait un pourcentage.
Ah ouais?
Je crois. Hein.
Putain. Parce que moi, Jonathan Lehmann, que j'ai aussi reçu sur son podcast, m'en a parlé.
On en a beaucoup parlé.
D'ailleurs. Ok. Bah, qui est un ami que j'apprécie beaucoup. Big up à toi, Jonathan, si tu nous écoutes.
On t'embrasse. Et... Ça fait longtemps d'ailleurs, Jonathan. On va voir un petit message, on se fait une bouffe.
Lui, il l'a fait en Inde.
Ouais.
Et alors, de ce qu'il me décrivait, ils étaient pas beaux. Enfin, pas beaucoup, mais après, on en a pas parlé
mais c'est
du nombre.
Plus petit centre, je crois.
Bah, peut-être. Parce que moi, de ce qui, tu vois, j'ai l'impression qu'ils étaient 20 quoi, dans la salle. Mais donc, il y a des gens qui quittent, quoi.
Ouais. Ouais, il y a des gens qui quittent.
Dur, hein.
Parce que c'est dur, quoi.
Ouais, bah,
en fait, tu m'étonnes. Tu te lèves tous les matins à 4h30. T'es là en train de méditer à 5h du mat. Et genre, à 21h, 21h, 22h, fin de la journée, tu vois. Et genre, t'as médité toute la journée, quoi.
Et t'as pas eu un moment envie de partir?
La première fois que j'y suis allé, non. Franchement, non. J'ai eu. Il y a un moment, c'est dur. Hein. Il y a un moment, genre, t'as mal. Parce que, tu sais, c'est des positions qui sont difficiles.
Ah ouais,
genre,
c'est
t'es
clair.
Assis toute la journée en tailleur.
Tu peux même pas te mettre contre un petit muret.
Il y en a qui le font, mais souvent, c'est les personnes plus âgées, tu vois.
Tu vois. Ok, donc je peux pas compter là-dessus. Non, parce que moi, vraiment, après un quart d'heure de méditation, si j'ai pas mon petit muret, j'ai mal.
Ah bah ouais, non, mais je comprends. Et surtout qu'il y a des moments où, genre, ils appellent ça des heures de détermination, où en fait, c'est une heure où, genre, tu ne dois pas bouger du tout. Genre, t'es d'habitude, au bout d'un quart d'heure, tu vois, tu vas pouvoir te redresser un peu, changer ta position pour. Ou même te lever, aller marcher deux secondes et revenir, tu vois. Là, il y a des heures où le but, c'est vraiment l'heure de détermination, quoi. C'est. On ne bouge pas, quoi. En tout cas, on essaie au maximum. Pour le coup, la deuxième fois où j'y suis allé, c'était horrible. Parce que. Pour deux raisons principales. La première, c'est que je commençais à m'engager dans une relation. Et en fait, je pensais constamment à cette personne, tu vois. Mm-hmm. Et donc, j'arrivais pas à me détacher de ça. En fait, j'étais là, genre, mais qu'est-ce que tu fous là? Genre, il y a cette relation qui est en train de naître. Genre, j'avais juste envie de passer mon temps avec, avec l'autre. Et en fait, ce qui a achevé le truc, et ce qui était encore plus dur, c'est que j'étais encore dans le décalage horaire quand j'ai commencé Vipassana. Et vu qu'ils ne te laissent pas de repos et ils sont très stricts, j'ai pas pu me remettre dans le rythme, en fait. C'est-à-dire que, en fait, si tu commences avec un décalage horaire, tu le termines. Tu termines avec un décalage horaire, je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, genre, il y a un moment, je saignais du nez de fatigue et tout. J'étais là, genre, mais les gars, mais juste. Et je faisais des insomnies et je dormais en journée. Et j'étais là, genre, mais j'ai juste besoin, juste un ou deux jours où tu me laisses faire une petite grasse mat, je me remets tranquillement, progressivement dans le rythme. Et ça va le faire, tu vois.
Ouais.
Les gars, ils étaient là en mode, non, c'est ton cerveau qui te joue des tours et tout. Affronte le truc.
Assez barbare.
Ouais.
Mais tu l'avais pas eu la première fois, ça?
Non, pas du tout. Parce que, tu vois, genre, j'avais commencé quelques jours après.
T'as une astuce à donner. Hein.
Ouais, quelques jours après mon arrivée, et donc du coup.
Tu t'étais habitué un peu.
Ouais, voilà.
Et qu'est-ce qui a fait que t'as voulu y retourner cette deuxième fois
Parce que c'était de la balle.
Ok, parce que t'avais tellement kiffé la première fois.
Ah, voilà, il faut que j'y retourne, là, d'ailleurs.
Ah ouais?
Ouais.
Ça t'a pas vacciné, entre guillemets, si on peut encore utiliser ce terme
aujourd'hui? Non.
Cette expérience horrible, la deuxième fois?
Ouais, c'était horrible, mais tu vois, genre, il y a plein de choses dans la vie qui parfois sont horribles, mais en fait sont cool. Tu vois,
ok. Belle philosophie de vie.
Des fois, tu bouffes un truc, c'est pas bon, mais c'est pas pour ça que tu vas arrêter de bouffer, tu vois.
Ah, moi aussi, vois. Ouais, je suis partie de ces gens-là. Non, mais tu vois, je pense que c'est aussi un truc à travailler. Je fuis énormément la souffrance.
Ok, non, j'avoue.
Et moi, un truc mauvais, alors, t'inquiète que je vais pas m'acharner. Hein. la vie est trop courte pour manger un truc dégueu. Enfin,
ouais, mais en fait, vu que je savais que la première fois c'était bien.
Oui, c'est sûr.
Tu vois, tu peux te raccrocher. Je sais que c'est pas une question de ce truc-là n'est pas fait pour moi.
Ouais.
Non, je sais qu'il y a des moments, en fait. C'est vrai que j'ai sous-estimé le fait que c'est quand même bourrin, tu vois.
Ouais.
C'est quand même dur.
Ouais.
Tu vois, la deuxième fois, j'ai voulu partir plusieurs fois, mais j'étais là en mode, je ne peux pas partir. Genre, donc, je vais m'accrocher. Et en fait, je me suis accroché. C'était horrible à tenir. Mais j'ai tenu et je me suis juste dit, bon, bah, la prochaine fois, ce sera mieux, tu vois.
Ouais, ok. Ouais, tu t'es même pas dit plus jamais.
Peut-être sur le coup, par la colère,
ouais,
tu vois.
Mais... Ouais, ouais. Et tu regrettes pas de l'avoir fait.
Non. Non, non.
Comment t'as fait un peu cette passerelle, j'ai envie de dire, entre la philosophie et tout ce qui est plus spiritualité, plus l'art d'être heureux c'est intéressant, je trouve. Et peut-être, qu'est-ce que t'en as retiré aussi comme enseignement?
C'est marrant, je suis pas sûr de faire une passerelle à ce point. Parce qu'en fait, pour moi, la philosophie, c'est beaucoup... d'intellectualisation et de compréhension intellectuelle des choses. Là où, tu vois, genre, ce dont on parle là, c'est-à-dire la méditation et en fait accéder au bonheur, tout ça, tout ce truc d'éveil, de spiritualité, ce que tu veux. Pour moi, c'est justement sortir de ce truc intellectuel.
Ouais.
Tu vois. Donc en fait, la philo, et c'est un peu marrant parce que Pascal disait des choses similaires parfois, mais tu sais, il parle donc du divertissement pascalien. Qui fait qu'on fait les choses pour éviter de penser à la mort, quoi, en gros.
Ouais.
Tu vois, de manière globale. Et dans ces choses qu'on fait, il y a aussi la philosophie. C'est-à-dire que Pascal, tu vois, pouvait te dire que, en fait, tu vas philosopher pour éviter de penser à la mort, tu vois, ou pour éviter de te retrouver, de t'ennuyer, tu vois. Donc, en fait, tout dépend de la modalité de pourquoi tu fais les choses, tu vois. Parce que la philosophie, tu peux aussi la faire pour penser la mort, tu vois. Memento mori, tout ça, tu vois, genre.
Bah non, moi Memento mori, ça me parle pas trop. Donc si tu peux développer. Alors,
Memento mori, c'est en gros, rappelle-toi que tu vas mourir.
Ok.
Donc en fait, ce pour bien vivre, il faut se préparer à la mort.
Ouais.
Tu vois, et se rendre compte qu'on est mortel pour mieux savourer la vie, quoi.
C'est un truc que j'ai observé autour des quelques personnes que je connais qui ont frôlé la mort. C'est que putain, après, ils vivent leur vie, mais à fond, quoi.
Ouais, ouais.
Limite, parfois, je me suis dit, putain, il faudrait une expérience comme ça pour te. Enfin, parce que c'est vrai, en fait, tu ne peux pas te rendre compte de la valeur de la vie, je pense, si t'as pas approché d'assez près la mort, ou que ce soit par ton entourage. Ou... Mais ouais, il faudrait trouver d'autres moyens. Et je crois qu'en effet, peut-être l'éveil spirituel en est un, d'après aussi les personnes que je connais, qui ont l'air d'avoir trouvé une espèce, tu vois, de réponse qu'on est. Pas mal à chercher, tu vois, de sérénité, de paix, de... Ok, il y a cette vie, et je vais mettre de côté les problèmes qui, du quotidien, ou en tout cas les minimiser, pour me concentrer sur ce qui me rend vraiment heureux.
Mais je pense que même sans vivre, effectivement, une expérience qui te rapproche de la mort, tu vois, genre, y a, donc Memento Mori, c'est un précepte notamment stoïcien, et tu vois, il y a Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, donc de Marc Aurèle, qui raconte que en fait quotidiennement il fait un petit peu comme pas un testament mais une déclaration un peu de mort, tu vois, un truc de, en gros il réfléchit, il se projette dans la mort, tu vois. Et j'avais fait une vidéo là-dessus où pendant 30 jours en fait je fais la routine de Marc Aurèle. En fait, j'ai pris les pensées pour moi-même et j'essaie d'en tirer une routine, tu vois. Effectivement, tu vois, genre tous les matins ou c'était tous les soirs, je sais plus, mais j'étais là genre en mode ok, bon, bah, si je meurs, qu'est-ce qui va me manquer là? Qu'est-ce que j'ai kiffé aujourd'hui? Et voilà, ce soir, c'est ma mort. J'ai une dernière lettre. Qu'est-ce que je raconte dedans, tu vois? Et je trouve que rien que faire ces exercices-là de pensée, je pense que pour beaucoup de gens qui nous écoutent, ça peut paraître glauque ou horrible, etc. J'avoue, moi, j'ai un rapport très flex à la mort, tu vois, genre ça me. Tu vois, genre par exemple la taxidermie, je trouve ça joli, quoi, tu vois, genre ça me...
Je ne sais pas ce qu'est la taxidermie.
C'est les animaux empaillés, par exemple.
D'accord.
Tu vois ce que je veux dire?
Bon, bah, je suis désolé pour les véganes qui nous écoutent. C'est tout ce que j'ai à dire.
Je suis végétarien, tu vois.
Ah ouais, ouais, ouais.
Donc, pour moi, à partir du moment où il est mort.
Oui.
Tu vois?
Ouais, ouais, ouais.
Et on le tue pas pour ça, tu vois,
ouais.
Contrairement à la viande, par exemple.
Ouais. Ouais.
Donc c'est ça la différence.
C'est ça la différence. Bon, ouais. Tu viens de préciser, d'accord. Donc t'es flex avec la mort. Mais c'est vrai que pas mal de psy, en fait, je sais pas, moi de l'extérieur, hein, je suis vraiment novice en la matière, en tout cas là, si on parle plus sur de la psychologie, j'ai l'impression que pas mal de mots sont expliquées soit par des troubles ou des trucs sexuels, notamment Freud, qui ramenait un peu tout à ça, ou à la peur de la mort. Et je sais pas, moi, de l'extérieur, mais je crois que c'est parce que je suis trop dans le conscient et pas dans l'inconscient, tu vois, je me dis, bah non, franchement, moi, je pense pas à la mort tous les jours, j'ai pas l'impression que j'ai une peur de la mort viscérale, tu vois, mais... Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que parfois, je trouve ça très réducteur. On explique vraiment la majorité des mots par un de ces deux
alors, je suis
facteurs.
Je suis d'accord pour Freud.
Ouais.
Et ça a été, d'ailleurs, il a été beaucoup décrié. Et en même temps, voilà, tu sais, j'ai toujours du mal avec les gens qui s'acharnent sur des penseurs d'une époque. Tu vois, c'est comme Aristote, il a été énormément décrié sur les trucs qu'il a racontés.
Ouais.
Mais tu vois, c'est des pionniers aussi, ces gens-là, tu vois. Par contre, pour le côté mort, moi je pense qu'on se rend pas compte.
Tu penses que c'est inconscient?
Je pense que tu vois, genre, si t'étais immortel, je pense pas que t'aurais monté ton podcast et tout ce que tu fais là aujourd'hui.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Je pense qu'en fait,
ouais.
le fait qu'il y ait une fin, même si tu n'y penses pas, le fait que tu le sais et que, en fait, toute notre société est construite autour du fait qu'il y a une fin. Parce que même le progrès, tu vois, genre le progrès scientifique, technologique, toutes nos avancées, tout ça, c'est parce que on sait qu'on est de passage, c'est parce que il y a un moment ça va s'arrêter, c'est parce que il y a peut-être une volonté de laisser une marque aussi, tu vois.
Mm-hmm.
Si on était là en mode on est tous immortels, bon, bah déjà rien que se nourrir, tout ça, c'est pour subvenir à des besoins vitaux. Si tu les as pas, tu meurs, tu vois. Mais si vraiment on était comme des elfes, tu vois, et qu'il y avait rien besoin de tout ça, on serait quand même tous, tu vois, genre ça serait très plat, quoi, tu vois,
ça
genre
serait très plat, ouais.
On serait là, genre
il y a pas de challenge, il y a pas de
Tu vois, genre pourquoi je vais inventer un micro-ondes qui va faire que ma cuisson va être réduite? J'ai le temps de faire ma cuisson. Pourquoi je vais la réduire, tu vois, genre, oui, bon, on fait ça avec des pierres, ça prend... Oui, ça prend 3 jours, mais c'est très bien, tu vois.
Ouais.
Genre, c'est quoi le problème, tu vois?
Ouais.
On n'a pas ce truc de vouloir se dépasser, même à l'échelle de l'individu, mais aussi à l'échelle de l'humanité, constamment, tu vois, si on était immortel. Ouais.
Mais est-ce que là, on n'est pas dans un excès?
J'irais même plus loin. Est-ce qu'on n'a pas toujours été dans un excès? Est-ce que c'est pas intrinsèquement, on est... Tu vois, genre, c'est... Qu'est-ce qui fait que ça...
Oui, c'est relatif, c'est ce que tu veux dire.
Ouais.
C'est relatif, c'est sûr, mais bon...
C'est-à-dire
c'est
que là,
vrai
maintenant,
que
l'excès se voit.
En fait, on est dans une accélération exponentielle, c'est ça que je veux dire. Et ça qui me fait un peu peur,
personnellement. Oui, parce qu'on est de plus en plus nombreux, etc. Mais...
Et tout va plus vite, tu vois, les progrès qu'il y a eu entre 1990 et 2000, et entre 2010 et 2015, rien à voir, quoi.
Ouais.
Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Bon, c'est là où, je disais... Bon, moi, je dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Parce que c'est vrai que sans savoir, tu ne peux pas mal de choses.
Ouais.
Mais il y a un côté où parfois, fermer les yeux... Enfin, tu vois, je sais que je ne pense pas trop à l'avenir, ce que ça va être dans 10 ans, dans 20 ans. Et d'ailleurs, j'en parlais, pour tout te dire, avec ma tante hier, qui me disait « Louise, il faut que tu investisses dans les crypto-monnaies. » Et je lui dis, et en gros, parce que moi on va rentrer dans les trucs de fiscalité, mais où en gros je mettais de côté chaque année pour avoir un plan épargne retraite, parce que oui, quand t'es entrepreneur, tu n'as pas de retraite, et en fait du coup tu en sors beaucoup à la fin parce que c'est exempté de d'impôts. Et du coup, moi, j'étais toute fière d'avoir trouvé, tu vois, ce truc qui est tout à fait légal, qui te permet d'épargner un peu chaque année. Et maintenant, ça m'a regardé en mode, mais Louise, cette valeur là dans 30 ans, dans 40 ans, ça ne vaudra plus rien avec la dévaluation de la monnaie. Et en fait, elle avait tellement raison. Mais comme moi, j'ai 24 ans, je pense pas au fait que la monnaie se dévalue dans le temps. Et elle me dit, les crypto-monnaies, dans 30 ans, ça vaut 30 fois plus. Et c'est là où je me dis, putain, parfois, tu penses peut-être pas assez long terme. Et d'un autre côté, carpe diem, tu vois.
Et d'un autre côté, t'as quand même fait un plan d'épargne retraite.
Ouais, mais après, parce qu'on me l'a conseillé. J'aurais pas pensé toute seule.
Tu vois, moi, j'ai pas de plan d'épargne retraite, par exemple.
Bah, j'ai l'impression que ça sert à rien. Ah, ici, dans le bitcoin. J'ai l'impression que ça te rapportera plus.
Moi, j'avoue, je suis plus. Pour l'instant, ma logique, c'est plus tout le temps que tu vas mettre à essayer de trouver le bon truc et tout. Tout ce temps-là, si tu le mettais juste à sortir du bon contenu, ça te rapportera plus, mon vieux. Tu vois.
Bah, en fait, c'est juste que.
Ce truc-là.
En fait, moi, c'est le truc de. En vrai, ça m'intéresse pas trop, la finance. Donc en fait, j'ai pas envie d'y passer du temps. Pareil, je préfère faire ce podcast que de penser à investir les crypto-monnaies. Mais bon, après, il y a une réalité de si tu veux te mettre à l'abri, de bon. C'est... On peut partir aussi sur ce sujet philosophique, parce que franchement, ce podcast, la philo, c'est une bonne excuse pour parler de tout.
Ouais, c'est vrai.
Tu vois, c'est ce côté, l'argent fait-il le bonheur. Il y a un truc très, très, très tabou en France.
Alors ça, il y a une étude là-dessus qui est intéressante.
Ah bah vas-y alors.
C'est, en gros, ils avaient fait l'étude aux États-Unis et en fait, si tu veux, au-dessus de 70 000 dollars par an,
ouais,
de revenus,
ouais,
c'est du pareil au même après. En fait, c'est logarithmique, si tu veux, la courbe.
Ouais.
En fait, au-dessus de 70 000 dollars par an, que tu gagnes 70 000 ou 150 000,
ouais,
ou 300 000,
d'accord,
t'es globalement au même niveau de bonheur, quoi.
Très intéressant.
Mmh. Mais de toute façon, y a, en termes de bonheur, ça me fait penser à un autre concept qui s'appelle l'adaptation hédonique. C'est un truc que j'avais fait... je pense que ma vidéo dont je suis plus fier, c'est là-dessus.
Bon, alors je la mettrai dans la barre de description.
Ouais, ça s'appelle « Êtes-vous vraiment heureux ?» Et en gros, le concept de l'adaptation hédonique, c'est... Ils ont fait plusieurs études aussi, ça a été prouvé plusieurs fois, etc. On a pris deux groupes d'individus, un groupe qui a gagné le loto et un groupe qui a été tétraplégique. Et en fait, si tu veux, après plusieurs mois, les deux groupes reviennent, après leurs expériences, reviennent à leur niveau initial de bonheur. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il t'arrive un truc ouf ou un truc nul, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur. Tu vois. C'est l'adaptation hédonique. Et les Américains, ils ont aussi un autre concept qui s'appelle « the hedonic treadmill », donc le tapis roulant hédonique. Parce qu'en fait, ce concept-là, une autre manière de le voir, c'est de dire « Ok, en fait, plus je monte dans les échelons de la société ou dans, de manière matérielle, tu vois, genre, c'est-à-dire m'acheter une pure baraque, m'acheter une pure voiture, etc., ça va me donner un boost heureux, confiance, tout ça. Mais en fait, adaptation hédonique,
ouais,
je reviens au niveau initial.
Tout à fait.
Donc, je vais vouloir chercher le plus.
Ouais.
Donc, c'est pour ça qu'il y a cette notion de tapis roulant. Mais en vrai, c'est la même chose dans le côté négatif. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les cas, tu reviendras à ton niveau initial de bonheur, quoi.
Après, je suis quand même un peu sceptique par rapport au tétraplégique.
Ouais, c'est ouf. Hein.
Parce que dépression. Enfin, moi, j'écoutais un podcast avec, je sais plus comment il s'appelle, Philippe, tu sais, cette personne qui a été coupée des membres, des quatre membres, et qui expliquait qu'il a fait une dépression pendant 7 ans, je crois. Et alors, en effet, aujourd'hui, il a l'air vraiment heureux, il le dit, tu sais, il a traversé la Manche à la nage, etc. Moi, j'avais reçu Théo Curin sur mon podcast, et c'est un peu les deux personnes médiatiques qui ont quand même subi cette atteinte physique énorme. Mais j'imagine qu'il y en a qui s'en remettent pas, tu vois. Enfin,
alors,
tu perds quand même l'usage de tes membres.
Ouais. Je pense que, effectivement, la dépression, tu vois, genre, là, on sort du cadre entre guillemets normal parce que
oui,
tu vois, genre c'est
une maladie.
Tu vois, donc ça se trouve l'étude elle a mis de côté les maladies, peut-être,
ouais,
que tu vois, genre tous les gens qui sont tétraplégiques ne deviennent pas dépressifs,
ouais,
tu vois. Maintenant moi ça m'avait choqué aussi le fait que tu vois, pour cette vidéo je suis parti rencontrer des réfugiés syriens,
mmh,
qui vivaient dans des camps au Liban, et je leur ai demandé de noter leur niveau de bonheur sur 10, tu vois. Il y a des gens qui te racontent des histoires horribles, tu vois, où ils perdent d'un coup leurs parents, ils perdent frères, ils sont obligés de quitter la maison elle s'est bombardée, enfin voilà. Et ils sont là, ils disent, tu sais, tu les vois en train de galérer avec leurs enfants et tout, ils sont là genre, 5 sur 10.
Mmh.
Genre, ah ouais.
Ouais.
Ok.
Un Parisien te dirait la même chose. Ouais, ouais.
Et tu vois, j'ai interviewé des enfants qui étaient là en train de jouer avec des trucs qui rafistolaient, des trucs qui chopaient presque dans des déchetteries. En fait, ils arrivaient à refaire des petites voitures télécommandées avec, etc. Et c'était là en mode, il y en a 10, franchement, il y en a 10, quoi. 10.
Mm.
Tu vois. Et donc, je suis parti poser la même question à des gens à Venice Beach, en Californie. Et tu vois, genre, les notes étaient très similaires, tu vois.
Et comment faire pour augmenter ce niveau de bonheur en ayant tous les privilèges qu'on a ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que je pense que les notes sont similaires parce qu'on n'a pas conscience de ce qu'on n'a pas. Vu qu'avec ce concept d'adaptation hédonique dont tu parlais, on s'est habitué à ce confort, à ses privilèges. Est-ce qu'il faut partir un mois, comme certains font, tu vois, faire de l'humanitaire, rencontrer la misère ? Enfin, je sais pas, tu vois, quelle serait... Parce que c'est con, quoi, qu'on soit là dans une vie, pour la plupart, quand même confortable, avec des 5 sur 10 de niveau de bonheur.
Ouais. En fait, Moi, je pense pas qu'on ait nécessairement besoin d'aller rencontrer la misère, tu vois. Il y a un... Allez, on rebascule sur la philo, mais il y a Schopenhauer qui parle d'un truc que j'aime bien. Il dit qu'en gros, la souffrance, elle est immédiate. C'est-à-dire que, par exemple, t'as un caillou dans ta chaussure, bah, tu le sens direct, tu vois. Genre, ça te gêne direct, c'est te... voilà. Alors que la satisfaction, elle est médiate. Il y a une médiateté, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que tu te rendes compte qu'elle est là pour la ressentir, tu vois. Typiquement, il n'y a pas de caillou dans ta chaussure, tu te dis pas je suis confortable dans ma chaussure, j'ai pas de caillou. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Le taf, c'est de se rendre compte de ça. Et en fait, il y a plein de trucs de psychologie positive qui en parlent et tout, c'est très en vogue aux États-Unis.
La gratitude.
Voilà, la gratitude, the grateful shower. Genre, tu prends ta douche et tu te rappelles trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Mais tu vois, la méditation, le taf, c'est aussi ça. C'est en fait, en étant présent à toi-même, tu te rends compte que, tu vois, genre là, si je suis présent à moi-même, là, genre, ok, bah, je passe un bon moment. Là, on se rencontre. Je suis content de te rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de toi, etc. Je t'avais déjà vu sur les réseaux, etc. Voilà, donc c'est une première rencontre. Ça me fait plaisir. Je suis bien assis, tu vois. Je suis dans des vêtements qui me sont confortables. J'ai un peu mal à la gorge parce que je parle beaucoup. Mais ça ira, c'est pas très grave, ça va passer, tu vois. Et voilà, tu vois, juste faire cet effort-là, je trouve, permet de remonter ta note.
Ouais. Est-ce que tu connais un peu les travaux de Bruce Lipton?
Le mec qui fait le thé?
Non. Attends, j'ai bugué, je me suis dit, est-ce qu'il a sorti un livre dont je ne suis pas au courant? Ça aurait pu être lui. Mais non, écoute, c'est un docteur en neurosciences.
Ouais.
Je sais pas si tu t'intéresses un peu aux neurosciences, parce que bon, bah, mine de rien... philosophie...
L'adaptation hédonique, ça a été étudié
En neurosciences, ok. Moi, je m'y intéresse. Je n'ai jamais fait d'études scientifiques, donc c'est un peu compliqué à ce niveau-là, mais je m'intéresse pas mal alors, à lui et à Dr. Joe Spinenza, si je ne me trompe pas.
Ok.
Et qui, en fait, pour eux, en fait, on peut hacker son cerveau. Et notamment, j'ai pas encore lu ce livre, mais Bruce Lipton a sorti un livre qui s'appelle Le paradis sur Terre.
Ouais.
En gros, il te dit... Il a vraiment hacké son cerveau pour connaître un niveau de bonheur perpétuel.
Mmh.
Bon, je peux pas encore, du coup, je suis désolée, là, je vous laisse un peu sur votre faim parce que je peux pas vous expliquer comment, pourquoi et tout. Mais je trouve ça fascinant et j'y crois.
Alors moi, tu vois, ça déclenche en moi, on parlait des signaux verts, là, c'est les signaux rouges.
Ouais.
Ça me rappelle plutôt un livre de Eva Illouz, qui est une sociologue incroyable. Tous ses livres sont ouf. Et elle a écrit un livre qui s'appelle, elle n'était pas toute seule d'ailleurs dessus, qui s'appelle Apicratie.
D'accord.
Ça te parle?
Ça me parle.
La dictature du bonheur.
Ouais.
En fait. Et en gros, elle parle du fait que voilà, il y a une injonction. On parlait des injonctions tout à l'heure.
Ouais.
Il y a une injonction à être heureux, tu vois. En fait, une grosse partie du bien-être, je trouve, c'est d'accepter que c'est ok de pas être heureux, et surtout c'est ok de pas être heureux tout le temps.
Ouais.
Tu vois. Mais même c'est ok de pas être heureux tout court, tu vois, et genre si t'as des énormes phases où t'es malheureux, bon bah c'est ok, tu vois, genre se faire violence pour être heureux, c'est hyper contre-productif.
Ouais, c'est sûr, mais c'est tellement facile à dire qu'à faire. Je pense que ça vient vachement de l'éducation, de plein de choses, mais moi de toute façon je suis très transparente sur mon podcast et sur mes réseaux de manière générale. Je n'ai jamais envie d'imposer la dictature du bonheur, mais je fais partie de ces personnes qui rejettent la tristesse et la souffrance.
Comment ça se manifeste, ce rejet?
Par exemple, quand il y a un événement qui va être, entre guillemets, négatif, ou qui une mauvaise nouvelle, un truc qui va me déplaire, tu vois, je vais sentir un peu, là, soit c'est du stress, soit c'est de la peine, soit c'est de la tristesse. Vraiment, j'ai une espèce d'automatisme de « Non, t'inquiète, ça va aller, on va faire ça, on va faire ça, et ça va rentrer dans l'ordre. »
Ok.
Tu vois? Et tant que ça rentre pas dans l'ordre, je suis pas bien. Je suis pas bien, mais je me dis que je vais quand même bien, tu vois. Moi, j'arrive pas à me dire « Vas-y, chiale, laisse-toi aller. » Tu sais, il y a des gens, ils aiment bien écouter des musiques tristes quand ils sont tristes. Moi, je mets Hakuna Matata à fond les ballons, mais à fond, je me le fais tatouer derrière l'oreille. Je vais, tu vois, je sais pas, sortir le champ, enfin...
Même les trucs très, très, genre une grosse rupture, par exemple?
Je n'ai jamais connu une grosse rupture.
Ouais.
Donc, wait for it, peut-être.
Wait for it.
Merci, ça me rassure énormément. Non, mais tu vois, le deuil, par exemple.
Ouais.
Le deuil, si, j'ai été triste, mais... Mais pareil, je vais
c'est un
peu...
Gros deuil.
Bah alors, tu vois, là, on va vraiment entrer dans des trucs très perso, mais ma grand-mère est décédée il y a 4 ans. C'est sûrement la personne dont j'étais la plus proche dans ma vie, vraiment, avec ma sœur jumelle. Et évidemment, j'étais super triste. Je me souviens, j'avais un voyage après avec des amis. J'ai besoin d'avoir pleuré dans une église, etc. Mais franchement, la vie a continué. Et moi-même, j'étais extrêmement surprise de ne pas être dévastée. C'est vraiment voilà, une des personnes les plus importantes de ma vie. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression que je me suis dit, elle n'aurait pas voulu que je sois triste. Et que ça a suffi à que j'aille mieux. Et d'un autre côté, inconsciemment, je me dis, putain, Louis, ça se trouve, tu fais un déni total du deuil. Un jour, ça va te tomber dessus.
Ça se trouve, non, tu vois. Genre... Ouais. Enfin, je pense qu'il faut pas se dire que forcément tu dois mal le vivre et voilà, ça fait peut-être partie de ta personnalité, tu vois.
Ouais.
Et c'est pas parce que ça s'est bien passé que y a un truc qui va tomber dessus plus tard, genre des années plus tard, genre tu t'as pas fait vraiment le deuil de ta grand-mère, non, pas forcément, tu vois.
Ouais.
Y a des gens, des événements qui peuvent être traumatiques pour certaines personnes, ne le sont pas pour d'autres, tu vois.
Ouais.
Donc au contraire, c'est a priori de ce que tu racontes, c'est une chance, tu vois. Maintenant, dans ce que tu m'expliques, putain, j'en serais pas en session de psy.
Ah mais grave, c'est drôle, vas-y, fais-moi tes analyses.
Dans ce que tu m'expliques, j'ai pas l'impression que tu sois dans une énorme lutte de déni. Tu vois, t'es plus en mode, ok, vas-y, on se ressaisit, on repart, et ça va être cool, tu vois.
Ouais.
Ce qui n'est pas la même chose que, non, je suis pas du tout triste, tout va bien, et je fais semblant, tu
ouais,
vois.
Ouais, c'est sûr.
C'est pas pareil, je trouve.
C'est pas pareil. Mais bon, après, je sais pas si c'est sain non plus, quoi. Enfin, d'après ce que je lis, il faut vraiment accepter ses émotions où là, moi, je choisis quelles émotions j'accepte et lesquelles j'accepte pas, tu vois.
Bah, moi, je trouve ça très bien.
Ah ouais, ok.
En fait, tes émotions, et là, on rentre dans le stoïcisme et tout, mais il y a les... Donc, chez les stoïciens, t'as les événements extérieurs, ok, qui se produisent. T'as toi. Et entre les deux, il y a ton jugement, tu vois. Et c'est-à-dire qu'en fait... Si ma maison brûle et que je suis triste, je suis pas triste parce qu'il y a une maison qui brûle. Tu vois, c'est du feu, il y a du bois, ça brûle. C'est pas ça qui me rend triste. Ce qui me rend triste, c'est que cette maison, elle représente tout ça pour moi. Ça me met dans la merde pour tel truc. Donc je suis dans une anxiété future, etc. Machin. Tout ça, c'est mon jugement. C'est mon jugement par rapport à cette action. Là, quand tu dis je laisse quelles émotions me touchent ou non, bah tu fais travailler ton jugement. T'es là en mode ok. Donc il y a cet événement qui se produit. Qu'est-ce que j'en fais maintenant ? Tu vois ? Le fait que ça me rende triste et que ça a tel impact sur moi, ça c'est à cause de mon jugement. Je peux avoir une influence dessus. On n'est pas en train de dire t'es pas superwoman, tu vois, t'es pas là. Et d'ailleurs c'est pour ça que le terme stoïcien a donné stoïque et qu'il y a cette image un peu négative du gars qui est stoïque. Mais le stoïcien il va te dire tu peux chialer, tu vois, genre t'es là genre. Je sais plus dans quel exemple il y a ça, mais genre, ta maison brûle, tu chiales. Oh, ça y est, t'as chialé, quoi. T'as chialé, t'es triste et tout. Et l'idée, c'est de pas laisser juste ce sentiment et cette émotion prendre le dessus et dominer ta life pendant X temps.
Ouais.
Tu vois, c'est juste ça. Mais que tu la ressentes, c'est normal. Que tu l'éprouves, c'est normal. Tu vois, après, maintenant, la question, c'est quelle place tu lui donnes.
Mm.
Tu vois, et ça, tu peux travailler dessus.
C'est vrai. Par la méditation, par des thérapies, par des lectures.
Dans des gars que j'ai rencontrés pendant la méditation, il y en a un qui me disait « Ouais, moi j'ai découvert ça avec ma femme, etc. Celle qui m'a initié. » Il m'a dit « C'est la 8e fois que je le fais. » Je lui dis « Ouais, et c'est quoi qu'est-ce que ça change dans ta vie et tout ?» Et il me disait « Bah, je me souviens, avant, j'étais en colère. Je l'étais pendant... Je pouvais l'être pendant, je sais pas, 8h, 9h. Maintenant, je le suis pendant 45 minutes. » Tu vois ? Et donc... Je trouve ça cool parce que il est toujours en colère.
Ouais.
On parle pas de ne plus être en colère, tu vois. Mais on parle juste de, au lieu que ça lui gâche 8 heures de sa journée, donc c'est une journée en fait, bah ça va durer 45 minutes. Et après, ça va redescendre et va dire waouh, putain, je me suis dit, ok, je suis revenu. Ok. Et la colère, je la vois, mais je vais pas y réagir de la même façon.
Et ça, c'est un mec qui a fait 8 fois Vipassana, ça que t'as dit ?
Ouais, mais en vrai, il a pas. T'as pas besoin de faire 8 fois Vipassana pour ça. Tu vois.
Non, mais c'est vivre des expériences qui te, comme tu dis, expérientielles, qui nous détachent aussi énormément de. Peut-être du bruit aussi quotidien, des sollicitations quotidiennes qui, je pense, jouent aussi vachement dans notre non-maîtrise de nos pensées, émotions.
Moi, je suis vachement dans la team. Il n'y a pas une solution, tu vois. Je médite et j'aime la méditation et tout, mais pour moi, genre, je suis pas sûr que ce soit genre. La seule solution, tu vois, je pense que chacun voit midi à sa porte et genre chacun a des solutions adaptées, tu vois.
Ouais.
Il y en a, ça va être des livres qui vont leur changer la vie, il y en a, ça va être des rencontres, il y en a, ça va être faire une thérapie, tu vois, il y en a, ça va être, je sais pas, de certains voyages, j'en sais rien, à avoir un animal domestique, tu vois.
Ouais, ouais, ouais.
Donc,
c'est hyper personnel.
Voilà.
Faut explorer.
Faut explorer.
Bon, écoute, Cyrus, je pourrais continuer longtemps, mais nous avons tous les deux des obligations futures, même si on a essayé de pas trop y penser. J'ai plutôt bien réussi, là, pendant le podcast. J'ai trois petites dernières questions pour toi.
Ouais.
La première, est-ce que si tu pouvais... Enfin, en fait, si tu pouvais offrir un livre aux personnes qui nous écoutent,
ouais,
lequel ce serait ?
Ce serait... Être heureux avec Spinoza de Balthazar Thomas.
Que tu as cité déjà dans l'épisode. Super.
Ça, c'est juste le temps que je sorte le mien.
Ok.
Mais pour l'instant, c'est celui-là.
Wait for it. On a une petite exclue aussi. Génial. Ensuite, c'est si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro,
ouais,
qui ce serait ?
Ah là là. Ah là 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 là. Il y a beaucoup de gens. Hein.
Tu peux aussi en citer plusieurs, si c'est plus simple.
Tu l'as eu, Hugo ?
Ouais, je l'ai eu, ouais. Mais il y a longtemps, c'était clairement pas... C'était en 2018, donc il s'est passé des trucs entre-temps.
C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant qu'il, tu vois, de voir son évolution et tout, parce que ça n'a rien à voir entre 2018 et maintenant.
Ouais.
C'est plus le même homme, tu vois.
Ouais.
Bah, Hugo, tiens.
Ok.
Mon bon Hugo.
Ok, bah, voilà. tu lui diras que maintenant il doit venir parce que Cyrus a dit qu'il devait revenir.
Avec plaisir.
Génial. Et la question signature du podcast, c'est ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de ta vie ?
Prendre le pouvoir de ta vie ? C'est exactement ce qu'on vient de dire en fait. Genre toutes les 10 dernières minutes, là, les 10 dernières minutes sur. Pas le contrôle de ses émotions, ça j'aime pas le terme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de contresens. Sur une de mes vidéos, il y a eu un gros contresens là-dessus où genre les gens pensaient que je parlais de contrôler ses émotions. Je parle pas de contrôler ses émotions. Là, on vient de parler du fait que genre tu pouvais être en colère, mais tu contrôles pas ça. La colère est bien. C'est accepter et y répondre différemment, tu vois. Genre le juger différemment, tu vois. Genre essayer de d'adapter sa réponse et voilà de comprendre que entre cette colère et moi, il peut y avoir quelque chose qui se met en place.
Ouais. Tu vois. Bah c'est de la gérer ses émotions, moi c'est un peu le
voilà, c'est plus de la gestion que du contrôle.
Ouais.
Et ben c'est ça, prendre le pouvoir.
Prendre le pouvoir de sa vie, génial. Ouais. Écoute, si les personnes qui nous écoutent veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Alors, mon réseau le moins puissant, c'est Instagram.
Ok. Bon bah alors c'est cool donc, parce que je pense que pas mal de gens qui écoutent ce podcast sont sur Instagram.
Donc franchement, mais après que des gens gentils s'il vous plaît. Voilà.
Mais j'ai une communauté en or.
Parce que moi, tu sais genre je poste des stories, genre je m'en bats les steaks de ce que je poste.
Ouais.
Et donc du coup c'est cool d'avoir un environnement bienveillant parce que du coup je poste comme je parle quoi.
Ouais bah en plus moi j'ai lancé le mantra on veut du vrai donc ma communauté aime beaucoup ce genre de vrai qui font du bien sur les réseaux sociaux. Merci Cyrus.
Merci beaucoup, merci pour l'invitation.
À très vite.
À très vite.
Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché. Et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer @CyrusNorth et @MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous permettez au podcast de grandir et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y en a plus de 170 qui sont disponibles sur InPower, vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.